C'est-à-dire quoi? Un jugement. On juge quoi? On juge qui? On juge pour quoi faire? C'est quand on juge. Qui est-ce qui juge? Comment juge? Yom HaRishon, Yom HaDin, le jour du jugement. Alors sur terre, ça existe de la justice. Tribunal, on juge une certaine action. Est-ce qu'elle était bonne, elle n'était pas bonne? Coupable, innocent, ça existe le jugement, tout le monde y sait. Maintenant, il y a un jugement céleste. Les gens sont jugés. Sont jugés pour faire quoi? Pour décider. Décider quoi? Décider ce que la personne mérite. Mérite où? Ce que la personne mérite dans ce monde ou ce que la personne mérite dans l'autre monde? Alors, il y a différentes catégories de jugements. Il y a un jugement que tout le monde sait, Rosh Hashanah. On décide quoi? On décide l'année future. Le budget qu'Akadosh Baruch Hu va mettre pour l'année prochaine. Il juge qui? L'individu ou la communauté? Les deux. Il juge le monde entier. Il juge aussi l'individu. Kol bnei Adam ovrim lafanaf ki bnei Meron. Tous les gens passent devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Ki bnei Meron comme des moutons de Meron. Ça veut dire une montagne où la route elle est très étroite, où il n'y a place que pour un mouton. Alors, Kol Bnei Adam, tous les gens du monde sont jugés, et chacun il est jugé comme un mouton parmi le troupeau entier. Ça, c'est Rosh Hashanah. Et on décide quoi? On décide, comme on dit dans la Moussaf de Rosh Hashanah, on décide sur la personne, sur le pays, Al Hamdinot Boye Amer, sur le pays est jugé. Et ils ont le shalom, quel pays aura la paix? Et ils ont la cheref, quel pays aura la guerre? Et ils ont le raav, et ils ont le sova, dans quel pays aura la famine? Dans quel pays il y aura beaucoup à manger? Ou briat boye pekedu, lazkiram la chayim ve la mavet, les gens sont appelés au jugement afin de fixer sur eux, sur la vie ou sur la mort. Donc la vie, la mort, la nourriture, la famine, la paix, la guerre, les individus et la collectivité est jugée. Le monde entier est jugé, tous les juifs sont jugés, chaque individu. Après Rosh Hashanah, on fixe donc ce qui va arriver, l'année qui va arriver. Ça, c'est un jugement. Maintenant, il y a un autre jugement. Il y a un jugement après la mort de la personne. Une fois qu'on meurt, on est jugé. Pourquoi on est jugé? Pour savoir quelle est notre place dans l'autre monde. Combien de Gan Eden, combien de récompenses chaque personne mérite. Il a fait tant de mitzvot, il a fait tant de mitzvot. Chacun, il a son jugement. Et chacun, il a son monde futur. Ce sont deux jugements différents. Le Rosh Hashanah, on juge ce monde. Et après la mort, on juge l'attribution de l'autre monde. Ça, c'est pas chout. Maintenant, comment on juge au ciel? On juge quelle action? Les bonnes actions. Les bonnes actions donnent accès à une récompense. Les actions moins bonnes peuvent donner accès à un règlement de compte. Alors, comment Hachem, il juge? tzadik, ou racha, ou benoni. Qui est tzadik? Comment ça se définit tzadik? Un homme qui fait que des mitzvot, il est tzadik. Oui, ça c'est évident. Un homme qui fait que des avérot, il est racha. Oui, ça c'est évident. Mais il y a peu de gens, ou s'il existe des gens qui font que des mitzvot, ou qui font que des avérot, ça n'existe pas des gens qui font que des mitzvot. Il n'existe pas des gens qui font que des avérot. Chacun y fait un peu de ça, un peu de ça. Alors, qui est tzadik et qui est racha? Comment ça se définit? Alors, je vous ai imprimé quelques textes. Ces textes sont fondamentaux. On va les lire ensemble. Vous les avez? Alors, le premier texte, c'est le jugement après la mort. Beth Shammai disent. C'est une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Beth Shammai disent, trois groupes se présentent le jour du jugement. C'est quoi le jour du jugement? Soit après la mort, ou le jour du dernier jugement. Il y a, quand la personne meurt, tout de suite il est jugé. Et à la fin du temps, après Mashiach, après la résurrection de mort, à la fin de tout le temps, il y a ce que les prophètes appellent Yom Hadin Agadol Vanora, le grand jour du jugement, où est décidé le Chay Olam Haba définitif. Maintenant, les gens qui meurent, qui sont tzadikim, sont aussi Olam Haba, sont aussi dans un Gan Eden. Mais si on peut dire ainsi un Gan Eden temporaire, Gan Eden temporaire jusqu'au dernier jugement. À la fin, il y a un dernier jugement, encore une fois. Alors, il y a trois groupes qui se présentent le jour du jugement. Les tzadikim, les reshaim et les beinonim. Les beinonim qui sont les moyens. Trois groupes. Évidemment, dans chaque groupe, il y a des sous-groupes. Parmi les tzadikim, il y a des grands tzadikim, des petits tzadikim, des moyens tzadikim. Chaque tzadik et tzadik, il a. Chez les reshaim aussi, il y a des grands reshaim, des petits reshaim, évidemment. Mais en gros, ce sont trois groupes. Tzadikim, Reshaim, Beinonim. Alors, qu'est-ce qu'on décide au ciel? On parle après la mort, donc on ne décide plus rien dans ce monde. On décide maintenant les choses pour le monde futur. Les Tzadikim sont immédiatement inscrits pour la vie future. Bien. Les Reshaim, ils sont inscrits pour l'enfer, pour le Gehinnom. Et les moyens, qu'est-ce qu'il y a avec les moyens? Les gens qui sont au milieu, alors d'après Beth Shammai, il descend un moment dans le Gehinnom. Il descend pour une minute, ou pour une heure, ou pour un jour, ou pour trois mois. Puis il monte. Alors ils sont sortis, sont nettoyés, leurs péchés sont nettoyés. Ils rentrent dans le monde futur, à prison Lamaba, pour leur mitzvot. Ça c'est l'avis de Beth Shammai. Beth et elle disent non. Les moyens, ceux qui sont au milieu, sont graciés par Hachem. Rav Chesed, Mate Klape Chesed. Il y a une mida d'Hachem, du Chesed, qu'il utilise pour les gens qui sont au milieu, sont dispensés du Gehinnom. Ils ne sont pas obligés de descendre au Gehinnom. Ils ne descendent pas dans l'enfer, ils expirent leur faute par d'autres moyens. Il y a d'autres choses pour enlever le péché, mais pas de Gehinnom. Donc d'après Beth Hillel, ne rentre au Gehinnom que ce qui est racha. Le tzaddik ne rentre pas au Gehinnom, le moyen ne rentre non plus. Très bien. Comment on définit maintenant le tzaddik et comment on définit le racha? Qui est le tzaddik et qui est le racha? On ne nous a pas encore dit. Alors nous allons lire le Rambam, comment il explique la définition de tzaddik et de racha. Rambam dans Mishneh Torah, Hilchot Teshuvah. Chaque homme a des mérites et des fautes. Chaque homme dans le monde, il a des mérites, il a des fautes. Celui dont ses mérites surpassent ses fautes, il a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, il est tzaddik. Celui dont ses fautes surpassent ses mérites, c'est un rachat. Celui dont ses fautes et ses mérites sont équivalents est un homme moyen, lui c'est le Beinoni. Donc, ce qui a, à la fin de sa vie, a plus de mérites que des péchés, donc il est tzaddik. Il rentre directement là-bas. Ce qui a plus d'avérot, c'est un rachat, rentre dans le Gehinnom. Ce qui est moitié-moitié, d'après Beit Shammai, il rentre un moment au Gehinnom, d'après Beit Hillel, il rentre pas au Gehinnom. Très bien. De même, dans une ville, on a une ville, on juge la ville aussi. La ville entière, on juge tous les habitants de la ville. Si les mérites des habitants surpassent leurs fautes, c'est une ville tzaddik. Si leurs fautes surpassent leurs mérites, c'est une ville racha. Et de même pour le monde entier. Le monde entier est jugé. Il y a différents jugements. Donc il y a un jugement individuel. Tu fais partie de la ville et tu fais partie de ta génération de monde. Un homme dont les fautes surpassent les mérites meurt immédiatement avec son mal. Le Rambam dit, ce qui a plus de fautes, il meurt tout de suite. Une ville dont les fautes sont plus nombreuses que les mérites périt immédiatement. Comme il est dit, le cri de Sdom va Amora est majoritaire. Quand Hachem il a vu qu'il y avait plus de péchés à Sdom que de mitzvot, eh bien il a dit, on va supprimer cette ville. Il est de même pour le monde entier. Si les fautes sont plus nombreuses que les mérites, le monde est immédiatement détruit comme il fut avec la génération du déluge. On va s'arrêter un petit moment ici. Est-ce que quand vous lisez ce texte, est-ce que ça vous pose une question? Est-ce que ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, est-ce que c'est... ça passe comme une lettre à la poste, ou votre esprit s'arrête ici en disant il y a quelque chose qui cloche. Je révise. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Si on a majorité mitzvot, on est tzaddik. Majorité averot, on est racha. Une ville majorité mérite tzaddik, la ville est tzaddik. Majorité averot, racha. Ainsi le monde entier. Après le Rambam dit, si à majorité mitzot, on est inscrit pour la vie. Si on est majorité racha, on meurt tout de suite. Ainsi, une ville qui est majoritairement racha, la ville est tout de suite détruite comme Sdom va Amora. Ainsi le monde, si c'est majorité péché, le monde elle est détruite comme pendant le déluge. Hein? Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Les villes qui sont plus que Racha, elles ne sont pas détruites, au contraire, elles sont encore mieux que les autres.
Alors, mademoiselle pose une question. Il y a des villes qui sont majoritaires Racha, elles ne sont pas détruites. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette question ou vous dites que cette question n'est pas une question?
Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce que ce qu'elle dit, il y a des villes qui sont majoritairement bracha, elle n'est pas détruite. Est-ce que cet axiome, vous souscrivez, sans clin d'œil? Quoi? J'entends mal. Alors vous posez une autre question maintenant. Vous dites que si le monde n'est pas détruit, donc c'est la majorité tzaddik, donc on n'a pas besoin de faire teshuvah. Oui, ça c'est une bonne question, mais ça ne rentre pas dans ce débat. Qu'est-ce que vous répondez à la question qu'elle a demandé? Quelqu'un qui a majoritairement tzaddik, il a plus de mitzot que d'averot, est-ce que lui doit faire teshuvah? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que... il n'est pas complètement tzadik.
Ah, on fait teshuva pour la averot. Parce que la averot, de quelque part, il faut quand même les payer. Même si on ne les paye pas avec Gehinnom, mais on paye avec une autre sorte de paiement. En fait, tu vois, pour enlever. Mais je reviens à la question qu'elle a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa question? Il y a bien des villes comme ça, elle prétend qu'il y a majoritairement rachat. Et la ville n'est pas détruite, la Rambam a dit, une ville qui est majoritairement rachat, tout de suite elle est détruite. D'accord. Ça, c'est pour le monde entier, vous avez trouvé une réponse. Peut-être le monde est lui majoritairement fautif, mais comme Hachem, il a fait il a juré de plus détruire le monde entier. D'accord. Peut-être ça pourrait répondre, mais pour une ville, il n'y a pas de promesse qu'il ne détruira pas une ville. Et le Rambam dit, une ville qui est majoritairement rachat, tout de suite, elle est détruite.
Et pourquoi la minorité de
Tzadik?
La minorité de Tzadik?
Peut-être on va la faire sortir de la ville, comme chez Lot. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, elle pose une nouvelle question. Une ville que la majorité est rachat, elle est tout de suite détruite. Qu'est-ce qu'il y a avec les rachaïm? Est-ce que le régime aussi meurt? Ou est-ce que peut-être les tzadikim, peut-être ils sont sauvés? Peut-être il y a un malach qui va les faire sortir. Hein? Dans ce dôme, comment ça s'est passé à ce dôme? Il y avait des tzadikim ou il n'y avait pas de tzadikim? Hein? Est-ce qu'il y avait 50 tzadikim? Mais 45 il avait. Il y avait 45? Quoi?
Non.
Vous savez.
Parce que Abraham, il a dit.
Et il y avait 40 peut-être?
Non.
30?
Non.
20? 10? Alors il n'y avait pas 10. Et pour moi, il a demandé. Il a quand même sauvé qui? C'est Lot. Lot était quand même tzaddik. Alors il a sauvé Lot. Il a sauvé encore qui? Hein? Madame Lot. Et qui encore? Ses deux filles. Bon, les gens, bien, il les a sortis. Mais je reviens toujours à la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec son action? Que quoi? Qu'il y a bien des villes majorité fautives et ils ne sont pas détruites. Ah! Voilà, vous entendez? Elle dit, qui vous a déterminé que la ville est majorité rachat? D'où savez-vous qu'il existe des villes majorité rachat?
Ben nous qui savons, c'est Hachem qui sait.
Hachem, il sait. Et vous?
Ben nous, on ne sait pas.
Alors, si vous ne savez pas, comment vous avez prétendu, on voit bien des gens, des villes où c'est majorité rachat, et ils ne sont pas détruits. D'où vous savez qu'ils sont majorité rachat, si vous ne pouvez pas décider qui est rachat, qui n'est pas rachat? On sait, donc on peut y savoir.
Non,
il faut décider. Vous pouvez savoir ou vous ne pouvez pas savoir.
On ne peut pas exactement dire oui ou non, mais d'après ce qu'on voit, ça veut dire on pourrait dire que oui, il y a des villes qui pourraient peut-être avoir une majorité de personnes.
Ils pourraient. Et peut-être ils sont majoritairement tzadiques.
Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu une ville où il y a une majorité majoritaire.
Peut-être il y a des villes qui se sont détruites. Quoi?
Les tsunamis, c'est pour ça.
Oui. Non, mais j'ai dit, la majorité des villes ne sont pas détruites. Alors peut-être on pourra déduire que quoi? Que la majorité des villes sont tzadiques. Ou ils sont moyens. Est-ce que c'est pensable? Hein? Quoi? Oui, c'est pensable. Mais elle a dit, mais on voit bien que la majorité sont rachats.
Peut-être que là-bas, il y a des gens qui font tenir.
Quoi?
Peut-être que là-bas, il y a des gens qui ont beaucoup de mérite.
Peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mérite.
Avec la balance.
Hein?
La balance, elle.
Ça bouge chez vous. Pourquoi vous ne pouvez pas rester comme ça sans bouger?
Parce que les gens, ils changent. Il y a des bons et des mauvais partout.
Des bons et des mauvais partout. Donc peut-être ils sont toujours majoritairement tzadiques. Est-ce que c'est possible? On ne connaît pas le poids d'une mitzvah, le poids d'une avéra.
Si la personne a fait une mitzvah, il y a fait plein de petites avérotes à côté, il y a que le bonté qui sait si la avérote, elle va être plus.
Alors on peut s'imaginer que Tokyo, c'est majorité tzadikim?
Je ne sais pas qui est.
On ne sait pas, non.
Hein?
On ne sait pas.
Ping, 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 et lang, ping, ping, et pong, ping, ping. Et encore 12 millions du genre. Quoi?
Logiquement, c'est
Jérémy
Téléchaïm.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs. Et chez les goyim. Et les goyim.
Ah, peut-être lui, il parle que des juifs.
Ah ben, le Rambam, il parle des juifs. Chaque homme a ses mérites et des fautes. On parle des juifs. Pourquoi Sodome, c'était des juifs à Sodome? Le Rambam, il a cité des Sodome. Oui. Il a parlé des goyim aussi. Il a parlé des goyim aussi. Est-ce qu'il est possible que la majorité de Tokyo et de Pékin et de Hong Kong et de Los Angeles et de San Francisco et de Ouagadougou et de Tombouctou, qu'il y a plus de mérite que de péchés? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut s'imaginer une chose pareille? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous comptez comme mérite? Qu'est-ce que vous comptez comme avara?
Respectent
leurs parents. Un goy qui respecte les parents, est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que respecter les parents, c'est une mitzvah pour un goy?
Non?
Vous croyez pas?
Non?
Il en a que sept? Ça vous dit rien, un goy avec Ebou d'Avraham?
Dama Benetina.
Mais d'où on apprend qu'est-ce que c'est la grandeur de Kibbud Avraham? Quel est l'exemple type dans la Gemara de Kibbud Avraham? C'est un goy d'Ashkalan, Dama Benetina, qui respectait son père et ne voulait pas le réveiller pendant la sieste. On apprend Kibbud Avraham d'un goy. Ça veut dire que c'est un mérite. C'est-à-dire un goy qui respecte ses parents, qui ne réveille pas son père pendant le sommeil, c'est un shrout. Alors, est-ce que les goyim font cette mitzvah?
Il y en a plein.
Oui, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah?
Faire du bien, aider les gens, aider les associations.
Faire des biens. Est-ce que les gens, ils nourrissent leurs enfants? Oui. Est-ce que c'est une mitzvah de nourrir quelqu'un? Alors, on donne un biberon à un enfant, est-ce qu'on fait une mitzvah? Et non, c'est normal. Évidemment, c'est une mitzvah. Évidemment. Si quelqu'un, il emprunte de l'argent et rembourse, est-ce qu'il fait une mitzvah de rembourser d'argent? Hein? Il y a une mitzvah de rembourser d'argent. Est-ce que les gens, ils payent leur loyer, la majorité des gens? Est-ce qu'ils payent leurs dettes? Ils font des mitzvahs. Quoi? On est honnête. Quand on peut voler, on ne vole pas. Est-ce que c'est une mitzvah? Quand on a envie de voler, quand on a la possibilité de voler, mais on ne décide pas de voler, c'est une mitzvah, comme ça dit la Gemara. Yeshav Adam Velo Avera, sa mitzvah. Donc c'est une mitzvah de ne pas voler. Alors les gens qui volent, ils volent plus ou ils volent moins? Quelqu'un qui vole, c'est plus de fois qu'il vole ou plus de fois qu'il ne vole pas? Il vole une fois, neuf fois il ne vole pas. Il a peut-être en neuf mitzvahs, tu n'as verra. On peut s'imaginer qu'à Ouagadougou, à Tombouctou, à San Francisco, la majorité des gens, ils nourrissent leurs enfants, ou peut-être tous, leurs parents, ils ne se bagarrent pas avec leurs voisins. Bon, de temps en temps, on se bagarre aussi. La majorité des gens ne se bagarrent pas. On peut s'imaginer que la majorité... Donc, votre axiome, on va bien des villes qui sont majoritairement fautives et ils ne sont pas détruits. Votre axiome n'est pas forcément quoi? Pas forcément. Peut-être la majorité du monde a des mérites.
Après les abérotes qu'on voit dans les villes pas cachées, entre guillemets, elles sont sûrement plus punissables que les mérites qui sont magasinés. Par exemple, des abérotes qui sont susceptibles de retranchement du peuple juif, elles sont plus graves que si on donne à manger à nos enfants.
Pourquoi?
Parce qu'on est quand même retranché du peuple juif.
Mais ceux qui donnent à manger à un enfant, c'est comme il aime Kayem le monde entier, on dit. Ceux qui sauvent la vie de quelqu'un, c'est comme il sauve le monde entier. Alors imaginons-nous, quelqu'un, il fait une grande avéra, comme vous dites. Et cette personne, il nourrit son bébé, il amène un biberon. Ben, il amène un biberon à son enfant, c'est comme il sauve le monde entier.
Ouais, donc en fait, on ne connaîtra jamais les...
Donc c'est possible que la mitzvah, même s'il fait des grandes avérotes, peut-être ces mitzvot valent plus. Quoi?
C'est ce qui explique qu'aucune ville est détruite.
Ça pourrait expliquer. Ça pourrait expliquer. Peut-être dans le monde, il y a plus des bonnes actions que des mauvaises actions. Et peut-être même dans des villes où il y a des gens qui font des pires des choses. Mais peut-être ces gens-là, ils font aussi des bonnes mitzvot. Peut-être ils respectent leurs parents. C'est une grande route. Ils respectent leurs enfants. Même dans quelqu'un qui tue. Les gens qui tuent, ils tuent combien de fois par année? Un mafia, il tue combien de fois par dans sa vie? 3 fois. Mais il aurait pu peut-être tuer 30 fois. Et 27 fois, il n'a pas tué. Il fait 5, mais 27 mitzvot, il n'a pas tué. Elle a 3 tués, 27, il n'a pas tué. Peut-être elle a plus de mérite. Est-ce que nous savons? Alors, regardez, nous allons lire le Rambam ici. On était où? Jusqu'à où nous avons lu? Je ne me rappelle plus. Jusque... Le Rambam, on a lu Rambam? On a arrêté où?
Comme il tue avec la génération du
déluge. Alors, je continue ici, Alia. Oui? Là où je me suis arrêté. Le compte n'est pas basé sur le nombre de mérites et de fautes, mais sur leur importance. Certains mérites équivalent à plusieurs fautes, et certaines fautes équivalent à plusieurs mérites. Le compte n'est effectué que selon la sagesse de Dieu, qui connaît lui, qui connaît. Lui sait comment mesurer les mérites aux fautes. Donc, on ne sait pas comment mesurer les fautes et les mérites. Il peut avoir une mérite qui valent plusieurs fautes, il peut avoir une faute qui valent plusieurs mérites. Donc, on ne sait pas donc. Donc, c'est possible que le monde existe. Seulement, il y a ici une grande question. Je vais poser la question qu'elle a demandée, légèrement différente. Le Rambam, il a dit, ceux qui ont majorité faute, ils meurent tout de suite, oui? Alors, est-ce qu'il n'existe pas des gens qui ont majorité faute et ils vivent? D'après ça, chacun qui vit, donc il a majorité mérite ou moyen. Est-ce qu'il n'existait pas des gens qui ont plus de fautes que des mitzvot et ils vivent? Quoi?
Il prend sur son
Olam Haba. Ça veut dire, vous voulez dire que il vit dans ce monde peut-être grâce au mérite. On lui enlève le mérite de Olam Haba, on lui paye dans ce monde. Peut-être. Peut-être. Mais avant de donner votre réponse, je voudrais d'abord savoir, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez avoir vu qu'il y a des gens qui vivent, qu'ils ont majorité à Averot? Est-ce que c'est sûr ou peut-être non? Peut-être tous les gens qui vivent, ils ont plus de mérite. Maintenant, vous dites que vous ne connaissez pas. Alors maintenant, essayez de comprendre. Peut-être vous connaissez, oui. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui vivent, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils ont majorité mitzvot ou moyen? Est-ce que vous en connaissez des rechaïm? Des vrais rechaïm, sur lesquels il n'y a pas de doute.
Hitler,
voilà. Est-ce que Hitler, on peut s'imaginer qu'il était tzaddik? Quel mérite il a pu faire?
Rien.
Hein? Rien? Quoi, il n'a jamais amené une pomme de terre chaude à sa grand-mère? Peut-être oui. Peut-être il a amené à sa grand-mère une pomme de terre chaude, une pomme chaude. Hein? Mais ce n'est pas équivalent, c'est Averot. Alors, on va s'imaginer. On va faire un petit film. Imaginons-nous qu'on nous permet d'assister à un film du Rosh Hashanah de l'année 1940. Vous connaissez l'année 1940? Bon. Rosh Hashanah 1940, tous les gens du monde étaient jugés. Alors, Hitler aussi, il était jugé. Donc, comment il faisait le bon Dieu au tribunal céleste? Comment amène tous les gens? Un après l'autre, il passe. Il arrive Hitler. Bon, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qui est-ce qui peut parler des mérites de ce monsieur? Bon, elle va lui dire un malach. Quand il était petit, il a amené une pomme à sa grand-mère. D'accord, mérite. Qui peut dire encore chose, quelque chose bien. Ah, il avait 11 ans, il a fait passer une vieille dame la rue. D'accord, mérite. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Eh bien, il vient de tuer 5 millions de gens, il vient de torturer 10 millions de gens, il a volé. Hein? Alors, on va mettre tout sur la balance. Où sera la majorité? Est-ce qu'on peut s'imaginer, parce qu'il a amené une pomme à sa grand-mère, ça peut être équivalent qu'il a tué des millions de gens? Non. Ça, nous acceptons pas. Personne n'accepte une chose, un jugement comme ça. Donc, il était majorité fautif. Ah, comment ça se fait qu'il a vécu? Alors, on va le dire. Hachem, peut-être, lui a donné, pour cette mitzvah qu'il a fait, on lui a donné.
Ok, mais prendre au prix de la vie de...
Ça, c'est maintenant une autre question. Pourquoi les gens sont morts? Ça, c'est maintenant une autre question. Ce n'est pas ça notre sujet maintenant. On dit sur Nebuchadnezzar, pourquoi il a... Nebuchadnezzar, c'est un grand rachat. Il a quand même régné sur le monde entier. Grâce à quel geste? Connaissez la Gemara? Parce qu'il a fait 3 pas à l'honneur de Dieu. Il était jeune, il était le secrétaire de Sanhérif. Et Sanhérif, le roi de Assyrie, il a écrit une lettre à roi Chizkia, le roi d'Yerushalayim. Il lui écrit une lettre, il a dit « Salutations au roi Chizkia, le roi des Juifs, et salutations au Dieu des Juifs. » Alors il a écrit une lettre. Et Nebuchadnezzar était son secrétaire, mais ce jour il n'était pas présent. Et quand il est revenu, on lui a dit « Vous savez que le roi, il a utilisé un autre secrétaire pour envoyer une lettre au roi juif. » Il dit « Ah bon ?» Et qu'est-ce qu'il a écrit, ce le secrétaire? Il a dit « Salutations au roi Chizkia, le roi des Juifs, et au Dieu des Juifs, salutations. » Il a dit « Mais non, c'est pas joli. On ne marque pas le roi. Et après Dieu, comment il faut écrire? Il faut dire « Salutations au Dieu des Juifs et à Chizkia, le roi des Juifs. » Alors, Sanhérif, il a dit « T'as raison. Il fallait marquer le contraire. » Eh bien, cours derrière le facteur, et dis-lui de revenir, on va changer le texte. Alors Nebuchadnezzar, il a fait un pas, deux pas, trois pas. Après, il a dit, mais non, il est déjà trop loin, ça, j'arriverai jamais à le rattraper. Bon, je laisse tomber. Alors, parce qu'il a fait 3 pas pour l'honneur de Dieu, Dieu le faisait régner sur le monde entier. Donc, il existe, c'est vrai. Peut-être il a fait une bonne action. Donc, on lui a payé ça dans ce monde. D'accord, on peut comprendre comme ça. Maintenant, on va arriver, il y a un jugement après la mort, pour l'Olam Haba. Mettons un jugement de Rosh Hashanah. Nous allons continuer. Vous avez la feuille? Le jugement de Rosh Hashanah. Vous avez la numéro 2. Le jugement de Rosh Hashanah, Rabbi Yochanan dit, 3 livres sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Au ciel, on ouvre 3 livres. Celui des Rechaim, celui des Tzadikim et celui des Beinonim. Les Tzadikim sont inscrits et scellés immédiatement pour la vie. Rosh Hashanah, tout de suite, les Tzadikim sont inscrits pour la vie et ils sont signés. Les Rechaim, le jour de Rosh Hashanah, sont inscrits et scellés immédiatement pour la mort. Quant aux moyens, Dieu attend jusqu'au jour de Yom Kippour. S'ils se repentent, ils sont inscrits pour la vie, sinon pour la mort. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, on va lire ce que la Rambam dit. De même que les mérites et les fautes d'un homme sont mis sur la balance à l'heure de la mort, ainsi chaque année, les fautes et les mérites de tout un chacun sont mis sur la balance le jour de la fête de Rosh Hashanah. Le verdict de celui qui est injuste est scellé pour la vie. Le verdict de celui qui est méchant est scellé pour la mort. Et le verdict de l'homme moyen est mis en suspens jusqu'au jour de Kippour. S'il se repent, est scellé pour la vie, sinon il est scellé pour la mort. C'est pourquoi chaque homme doit considérer toute l'année comme s'il était moitié innocent, moitié coupable. Le Rambam cite maintenant la Gemara Kiddushin, que chacun toute l'année doit imaginer qu'il est moitié innocent et moitié coupable. Ça, c'est le rachat ou c'est le tzaddik, ce qui est moitié méritant, moitié coupable? Benoni. Un homme, il doit toujours imaginer que je suis un Benoni, alors, et que le monde entier était moitié innocent, moitié coupable. Je dois m'imaginer qu'aujourd'hui, le monde est moitié innocent, moitié coupable. Il y a combien de gens dans le monde? Combien? 7 milliards. Alors, je ne sais pas combien de tzadikim il y a. Je ne sais pas combien de rachim il y a. Alors, je dois m'imaginer qu'il y a 3 milliards 500 millions de tzadikim, 3 milliards 500 millions de rachim. Et il reste encore moi. Il y a moi. Et moi, je dois m'imaginer que je suis moitié tzadik, moitié rachat. Ça veut dire quoi? J'ai 1,5 million de mitzvot et j'ai 1,5 million le contraire. Comme ça, je dois m'imaginer. Vérité, je ne sais pas. Peut-être j'ai plus de mitzvot, j'en sais rien. Mais je dois m'imaginer comme si. Alors, s'il commet une faute, il fait pencher le plateau de la culpabilité contre lui-même ainsi que le monde entier. Et cause sa destruction. S'il accomplit un commandement, il fait balancer le plateau du mérite en sa faveur et en faveur du monde. Il apporte pour lui-même et pour les autres le salut et la délivrance, comme il est dit, le juste et le fondement du monde. Ça veut dire quoi? Nous devons nous imaginer que nous sommes moitié-moitié, et en faisant une mitzvah, je suis tzaddik. En faisant une avéra, je suis rachat. Donc c'est bien de s'imaginer que je suis moitié-moitié. Alors je vous pose une question. Si je m'imagine que je suis moitié-moitié, si je fais une mitzvah, donc je suis tzaddik. Et après que j'ai fait la mitzvah, qu'est-ce que je dois m'imaginer? Que je suis quoi? Tzaddik, mais il a dit, il faut toujours s'imaginer qu'on est moitié-moitié. Je dois toujours considérer que je suis Benoni. Alors, imaginez-nous, moi, je me considère maintenant, je suis moitié-moitié. Maintenant, j'ai fait une mitzvah. Donc, il dit, j'ai fait une mitzvah, je suis tzaddik. Une fois que j'ai fait cette mitzvah, qu'est-ce que j'imagine que je suis maintenant? Benoni. Comment je peux être Benoni étant donné que j'ai une mitzvah de plus?
Ben, j'ai imaginé que je ferai une avéra peut-être. Parce que je n'ai pas fait la mitzvah à 100%, je n'ai pas tous les paramètres.
On ne sait rien.
Et si j'ai fait, le Rambam il a dit, je dois m'imaginer que je suis moitié-moitié. Si j'ai fait une mitzvah, donc je serai tzaddik. Voilà, maintenant j'ai fait la mitzvah. Maintenant je m'imagine quoi? Je dois toujours imaginer que je suis moitié-moitié. Comment je peux être moitié-moitié étant donné que je viens de faire la mitzvah, donc il dit que je suis une tzaddik?
Grâce à la mitzvah qu'on a fait, alors on
était rachat. Peut-être on était rachat. Parce que peut-être il me manque une mitzvah avant. C'est-à-dire que quand je m'imagine que je suis moitié-moitié, je ne suis pas sûr que je suis moitié-moitié. Vous me suivez? En vérité, c'est possible qu'il me manquait une mitzvah pour être moitié-moitié. Mais je m'imagine comme si je suis moitié-moitié. Mais en vérité, peut-être, il me manque une mitzvah. Donc je dois m'imaginer que si je fais une mitzvah, je suis tzaddik. Une fois que j'ai la mitzvah, j'ai dit, peut-être je suis moitié-moitié, parce que peut-être il me manque une mitzvah, cette mitzvah m'a rendu moitié-moitié. Alors qu'est-ce que je suis tenté de faire maintenant que je suis moitié-moitié? Une mitzvah. Maintenant, je vais à 2 mitzvot. Maintenant, qu'est-ce que je m'imagine que je suis quoi?
Peut-être qu'il me manquait
2 mitzvot. Peut-être qu'il me manquait 2 mitzvot. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu de toujours imaginer que je suis moitié-moitié? Pourquoi pas s'imaginer que j'ai 80 mitzvot et 20 avérot? Pourquoi pas imaginer que j'ai 80 avérot et 20 mitzvot?
Ça, on évolue toujours.
Quoi?
On évolue toujours. On a toujours envie de faire des mitzvot en plus.
J'ai pas compris. Pourquoi pas imaginer que j'ai 80... Pourquoi il faut que je m'imagine que je suis moitié-moitié? Pourquoi pas imaginer que j'ai 80 mitzvot et 20 avérot? Étant donné qu'on ne sait pas où est la vérité. La vérité, je ne sais pas où je suis. Est-ce que j'ai 80 mitzvot? Est-ce que j'ai 80... 70 mitzvot? Est-ce que 55... La vérité, personne ne sait où il est. Mais il faut que tu t'imagines que tu es moitié-moitié. Pourquoi?
Ça nous incite à faire encore plus de mitzvot.
Et pourquoi pas imaginer que j'ai 80 mitzvot et 20 avérot?
On se dira, c'est bon maintenant, ça y est.
Ah bon, de toute façon, j'ai 88 mitzvot, 8, 7, 10, je n'ai pas besoin de fatiguer. Et pourquoi imaginer que j'ai 80 avérot et 20 mitzvot?
Mais on serait déjà, c'est mort maintenant, ça y est.
Ah, j'ai 80, de toute façon, j'ai 80 avérot et 20 mitzvot, oh là là, c'est trop difficile, je vais laisser tomber. Donc, le mieux pour se encourager, c'est d'imaginer que je suis la moitié-moitié. Comme ça, j'ai fait une mitzvah, je suis tzaddik. Je fais une mitzvah, à cause de ça, je suis racha. Donc, soyons gentils et faisons une mitzvah. Mais une fois que je fais la mitzvah, je m'imagine de nouveau que quoi? De nouveau moitié-moitié. Parce que peut-être, il me manque une mitzvah. Donc, comme ça, chaque fois, toute la vie, je m'imagine avec une mitzvah, je peux devenir tzaddik. Mais en vérité, je ne sais pas où je suis. Mais peut-être, c'est comme ça. Donc, vas-y, fais une mitzvah. Mais si je m'imagine que j'ai 80 rachats, 20 mitzvot, alors on va se dire...
C'est bon.
Quoi, c'est bon? C'est mauvais, vous le dire. Si quelqu'un s'imagine qu'il est rachat, est-ce qu'un homme a le droit d'imaginer qu'il est rachat? Hein?
Il sera bête.
C'est marqué dans la Mishnah, dans le Sefer Pirkei Avot. Al tihi racha bifnei atzmecha. C'est une grande avéra qu'un homme y pense qu'il est racha. Al tihi racha bifnei atzmecha. Ne t'imagine pas que tu es un racha. Ce qui est racha, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je suis racha. Ça sert à rien, une mitzvah de plus, une mitzvah de moins, tout le temps c'est racha. Quand quelqu'un s'imagine racha, il n'est pas encouragé de faire des... Il ne faut pas s'imaginer qu'on est racha. Un homme, le olam yirei adam et atzmo, ki ilu hu chatzi zakai ve chatzi chayav. Ve yirei et kol haolam kulo, dit la Gemara, comme ça le Rambam ici, le olam yirei adam kol haolam kulo, ki ilu hu chatzi zakai ve chatzi chayav. Un homme, il doit imaginer que le monde entier est matye zakai et matye chayav. Je ne sais pas où est la vérité, mais moi je dois imaginer comme ça. Il y a 7 milliards de gens. Je dois dire, peut-être maintenant c'est 3 millions et demi sur 3 milliards sur 500 millions. Ben, c'est comme ça, peut-être. Et moi, je suis moi, avec une mitzvah, je sauve le monde entier. Imagine-toi que tu peux, qu'une mitzvah, tu peux sauver le monde. Comme ça, un homme, il doit s'imaginer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un homme, il est moitié-moitié, il fait un avéra? Qu'est-ce qu'il doit s'imaginer maintenant?
Il a pu se rattraper, il doit faire une mitzvah pour...
Qu'est-ce que je dois penser? Une fois que j'ai fait un avéra, je dois penser que je suis racha ou je suis moitié-moitié?
Je suis racha, donc...
Non, mais on n'a pas le droit de s'imaginer qu'on est racha. Il faut toujours penser qu'on est moitié-moitié.
Alors, on y est presque.
Non, presque. Il ne dit pas presque. Vous ajoutez un mot qui n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué presque. Il est marqué, un homme, il doit toujours penser qu'il est moitié-moitié. Alors, je pense, maintenant, je suis moitié-moitié. Maintenant, l'homme, il a fait un avéra. Il doit penser quoi? Qu'il est moitié-moitié. Comment il peut être moitié-moitié? Il vient de faire un avéra. Mais peut-être il avait une mitzvah en plus avant. Et à cause de cet avéra, il est maintenant moitié-moitié. Il ne faut pas penser que tu es racha. Il faut de nouveau moitié-moitié. Si maintenant on fait encore un avéra, qu'est-ce que je vais penser maintenant?
Peut-être qu'il y avait deux mitzvot.
Peut-être il y avait deux mitzvot en plus. Et maintenant, les deux mitzvot, j'ai perdu. Mais je suis maintenant moitié-moitié. Avec une mitzvah, je vais me mettre sur la côte. Il faut toujours imaginer ça. Quoi?
Il faut faire des avérots toute notre vie, alors.
J'entends pas. Le contraire, si tu fais un avéra, tu vas devenir racha. Si je m'imagine, je suis moitié-moitié, je ne vais quand même pas fou de faire un avéra. Maintenant, j'ai moitié-moitié avec une mitzvah, je suis tzaddik et une avéra, je suis racha. Pour un geste, je vais me rendre racha. Vous dites, c'est trop facile, parce que je vais faire un avéra, après je vais m'imaginer que je suis moitié-moitié. Mais moitié-moitié, vous allez faire une avéra pour perdre votre lamaba, vous êtes fou. Alors, ça, on ne va pas faire. Ah, pas la peine, pour une, un verra perdre tout. Donc on va tenter de faire des mitzvot. Mais si on a pu faire la verra, ce chelo, alors ne crois pas que tu es racha. Dans ce cas-là, de nouveau, dès que tu es moitié-moitié, parce que peut-être tu avais un crédit d'une mitzvah. Mais je vais vous poser une petite question. On va voir qu'est-ce que vous répondez. Il y a une gemara dans ma Seret Nida. Elle dit qu'avant la personne vient sur terre, la neshama, chaque neshama se présente devant Hachem avant de venir sur terre. Et Akadosh Baruch Hu dit, toi neshama, viens ici, jure-moi deux serments. Qu'est-ce que voulez-vous de moi? Jure que tu seras tzaddik et tu seras paracha. Alors chaque neshama doit jurer, je te promets Hachem, je serai tzaddik et je serai paracha. Très bien. Maintenant, Akadosh dit jure-moi un deuxième serment. Ah, qu'est-ce qu'il faut jurer encore? Jure que même si le monde entier va dire que tu es tzaddik, toi, tes yeux, tu seras un rachat. Ne te laisse pas impressionner ce que les gens disent. Même si tout le monde dit que tu es tzaddik, toi, tes yeux, tu dois être considéré comme rachat. Parce que si un homme y croit que quoi? Si le monde entier dit tzaddik, tzaddik, alors si tzaddik, alors on ne fait plus rien. Toi, à tes yeux, tu dois être rachat. Mais c'est contradictoire. On a dit qu'un homme n'a pas le droit de se considérer comme rachat. Vous entendez la question? Est-ce que vous répondez?
Si à la base, il jure que c'est un
tzaddik. Je jure que je vais être un tzaddik.
Ça, c'est la base. Maintenant, si il doit se considérer comme rachat, mais il sait que c'est un tzaddik.
Donc, d'où il sait?
Bah parce qu'à la base, il avait juré qu'il serait un tzaddik.
Oui, c'est parce que tu as juré, c'est sûr que c'est comme
ça.
C'est-à-dire
qu'il fera en sorte de
ouais,
faire sa promesse.
Ouais.
Donc, si il doit se considérer comme rachat, bah, d'un côté, je vais me considérer comme rachat pour les autres, pour me laisser impressionner. Mais de l'autre, je dois respecter ma promesse, donc je dois tout faire.
Oui, mais comment je peux me considérer comme rachat? Non, il doit toujours penser qu'il est moitié-moitié. On a dit que l'homme doit toujours penser qu'il est moitié-moitié.
Si tout le monde lui dit qu'il est tzaddik, c'est que c'est vrai, c'est vraiment un tzaddik, il a des raisons d'être tzaddik. Mais c'est pour qu'il fasse toujours plus qu'il doit se dire qu'il est rachat.
Non, on dit, même si le monde entier dit tu es tzaddik, ne crois pas un traître mot de ce que les gens y disent. Les gens, ils peuvent se tromper. Les gens, ils peuvent penser qu'il est tzaddik, en vérité, il n'est pas tzaddik. Alors ne crois pas ce que les gens y disent. Non, pas il savait. Il savait, personne il sait. Il doit se considérer. Il ne sait pas. Il y a Kachem qui sait qui je suis. Mais si le monde entier dit sur toi que tu es tzaddik, ne leur crois pas. Toi, tes yeux, tu seras un rachat. Comment c'est possible? On n'a pas le droit de se considérer comme rachat. Non, je vais vous dire c'est quoi la réponse. Le sens de la Gemara n'est pas considéré pas comme rachat, chas v'shalom. Mais pense que peut-être tu es rachat. En vérité, quand on dit considère-toi comme moitié-moitié, c'est-à-dire je suis sûr que je suis moitié-moitié. Non. Quand on dit l'olam irei adam et atzmo kilu chatzi zakai v'chatzi rav, un homme doit toujours considérer comme il est moitié. C'est-à-dire, un homme il doit toujours être sûr qu'il est moitié moitié.
Considérer comme si.
En vérité, je ne sais pas qui je suis. Peut-être je suis tzaddik. Peut-être que ce sont le contraire. On ne sait pas. Mais considère. Dans le doute, imagine-toi que tu es moitié moitié et avec une mitzvah tu peux être tzaddik. Mais en vérité, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Quand on dit, avant de la naissance, Dieu fait jurer, même si tout le monde dira sur Dieu tzaddik, ne crois pas. Parce que peut-être tu es rachat. Pas que vadaï tu es rachat. Peut-être tu es rachat. Ah, mais tout le monde dit tzaddik. Oui, mais les gens, ils peuvent se tromper. C'est pas une preuve. Peut-être tu es rachat. Mais je dois pas me considérer comme rachat. J'imagine que je suis moitié-moitié. Vous connaissez cette histoire du duc avec le juif, là, qui donnait un repas? Vous connaissez cette histoire? On raconte une histoire. Un jour, il y avait un duc goy. Il faisait un voyage. Alors, il a dit à toutes les communautés juives, chaque soir, je suis dans une autre communauté juive, et je voudrais que le président me prépare un bon repas. Mais il faut me préparer un vraiment bon repas, comme je mérite, moi, le grand duc. D'accord, très bien. Alors il est parti chez le premier président juif. Il lui a servi tout ce qu'il faut. À la fin, il dit, M. Monsieur, vous avez oublié le vin Mouton Rothschild. Vous connaissez Mouton Rothschild, le vin à 1000 euros. Ah, vous n'avez pas servi. Moi, Dieu, vous n'avez pas servi. Vous méritez 20 claques. Et il a demandé à son serviteur, il lui a donné 20 coups de bâton. Après, le lendemain, je vais aller dans un autre village. Ils ont dit à ce juif, prépare bien ce vin-là, parce qu'il est fou, là, les gars. Il a besoin de ce vin-là. Alors, il a acheté ce vin. Il mange bien et tout, avec le vin et tout. Après, il dit, il manque le fromage suisse, là, Tilsit. Tu mérites 20 claques. Ils lui donnent 20 claques. Bon. Troisième soirée, ils ont dit aux juifs, prépare le vin et prépare le fromage suisse. Débrouille-toi pour avoir. Il a tout préparé avec le bon fromage et le vin. Et il mange bien. Il dit, ah, il manque le vodka d'Irlande, là. Tu n'as pas préparé. Bon, 20 claques. Ah, ils donnent 20 claques. Très bien. Quatrième soirée, ils ont dit, prépare le vin, là, de beaux trucs. Prépare le fromage et prépare le whisky et tout. Il a tout préparé. Il arrive le duc. On lui a dit, prépare tout. Il arrive le duc. Il va une bouteille d'eau avec un morceau de pain sur la table. C'est le quatrième. Alors le duc, il se met en colère, il dit, « Quoi, c'est ça que tu m'as préparé ?» Alors le juif, il dit, « À quoi ça sert de je me fatigue pour vous ?» De toute façon, vous allez me donner 20 claques à la fin. Alors buvez le pain, donnez-moi, voilà, vous voulez des claques, voilà, j'enlève la chemise, donnez-moi des claques. À quoi ça sert de préparer, de toute façon, tu veux donner des claques. Si quelqu'un ici imagine qu'il est rachat, qu'est-ce qu'il s'imagine? De toute façon, le bon Dieu va donner des claques. Ah, qu'est-ce que ça change, il fait mitzvah navira. De toute façon, le bon Dieu veut que vous donnez des claques. C'est pour ça, on n'a pas le droit de penser que tu es rachat. Qui te dit que tu es rachat? Alti rachat befne atzmacha. Tu n'as pas le droit de t'imaginer que le monde est les... que le monde est les rachats. L'olam yireh et kol haolam kulo keilu chatzizakai vechatzizakhev. Tu dois imaginer que le monde entier est moitié-moitié. Il n'y avait qu'une mitzvah, tu sauves le monde. Tu ne dois pas imaginer que le monde, de toute façon, est le chayav. Tu dis chayav, alors de toute façon, il va sortir une catastrophe. Ah, si de toute façon, va sortir une catastrophe, ça n'encourage pas, tu n'as pas le droit de raisonner. Maintenant, où est la vérité? On ne sait pas où est la vérité. Alors, ça... c'est une lecture. Maintenant, il y a une deuxième lecture dans tout ça. Le Ramban, il dit, on avait vu donc ici, pour le moment, dans la Gemara, dans le Ramban, qu'il y a deux catégories des jugements. Il y a une catégorie, le jour de la mort, donc on doit décider l'autre monde. On doit juger Rosh Hashanah dans ce monde-là. Mais le Ramban, il dit, les deux jugements ne sont pas faits de la même façon. Après la mort, on met toutes les mitzvot sur un côté, toutes les averot sur l'autre côté, et on regarde s'il est tzadik, s'il est racha. Mais Rosh Hashanah, Hashem ne met pas toutes les mitzvot et toutes les averot sur la balance. Mais il fait une sélection. Il choisit un peu des mitzvot, il choisit un peu des averot, il les met sur la balance. Il ne met pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot qu'Hachem ne veut pas payer dans ce monde, il veut payer dans l'autre monde. Il y a des avérot qu'Hachem ne veut pas payer dans ce monde, il veut payer dans l'autre monde. Hachem, il regarde les mitzvot, il regarde l'avérot, il dit, cette mitzvah, je veux payer dans l'autre monde. Cette mitzvah, non, celle-là, je veux payer ici. Ou un avéra. Cet avéra, je veux qu'il paye ici, ce monsieur. Cet avéra, je veux qu'il paye dans l'autre monde. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la sagesse d'Hachem. Combien vaut cette mitzvah? Si ça vaut la peine? Ça dépend de beaucoup de paramètres que nous ne connaissons pas. Alors donc, des fois Hachem, il dit, celui-là, je préfère qu'il ne sera pas au Olam Haba. Il est trop rachat. Imaginons, Hitler, il va venir dans l'autre monde, il va nous abîmer la fête. Il va rentrer, les tzadikim, Hitler, il rentre, tous les tzadikim me dire, alors on ne peut pas regarder ce type-là. Celui-là, je ne veux pas qu'il en ait pas. Alors, ces mitzvot, il a amené une pomme à sa grand-mère. Bon, d'accord, c'est un mérite. on va lui payer ça dans ce monde. Eh bien, qu'il aura de l'honneur, encore de l'argent dans ce monde. Il y a des mitzvot qu'Hachem il veut payer dans l'autre monde, il y a des mitzvot qu'il veut payer ici. Il y a des avérotes qu'il veut payer dans l'autre monde, il veut payer ici. Et donc, quand on dit Rosh Hashanah, le tzaddik, il est inscrit pour la vie, ce tzaddik ne veut pas dire ce qui a plus de mitzvot que des avérotes. Mais ce tzaddik, ça veut dire ce qui est innocenté dans ce jugement. Le rachat, Rosh Hashanah, c'est celui qui était jugé coupable. Mais peut-être il a plus de mitzvot. Mais il était jugé coupable. Pourquoi? Parce qu'Hachem a pris une partie de ses mitzvot et il a dit, je ne veux pas qu'il joue un rôle dans ce monde. Cela, je veux payer que dans l'autre monde. Étant donné qu'il ne fait qu'une sélection des mitzvot des Averot, donc le reste, il est payé pour Olam Haba. Donc c'est possible, d'après cette mesure, que le rachat, il vivra. Et que le tzaddik, il mourra. Ça, c'est possible. Parce que Shem, il a fait une sélection. Vous comprenez que... Oui?
Si vous dites ça, ça veut dire que quand on nous dit, ouais, vous faites teshuva et tout, en fait, ça veut rien dire. Si on fait teshuva, si ça se trouve, ça ne va pas nous laisser en vie. Parce que notre teshuva, Shem, il va la considérer comme trop grande. Il va dire, ben celle-là, j'ai pas envie de la garder pour cette année. Je veux que c'est... Comme c'est une grosse misère, je vais la garder pour plus tard. Donc, la personne ne l'aura pas teshuva pour rien, entre guillemets, mais...
Très bonne question. Eh bien, c'est parce que vous avez pris mes paroles... J'ai pas terminé. Vous avez pensé comme ça, que les grandes mitzvot, ils payent dans l'autre monde, et les petites mitzvot dans ce monde. Alors vous dites, alors mieux vaut faire des petites mitzvot, pas des grandes. Si je veux, Rosh Hashanah, être jugé bien, mieux vaut faire des petites mitzvot, qu'il me paye dans ce monde, comme ça je vivrai ici. Parce que si je fais la mitzvot super bien, il va la laisser pour l'autre monde, après je peux pas profiter ici. Peut-être je vais rater la Rosh Hashanah ici. C'est ça que vous pensez.
Mais c'est mieux d'être jugé pour la vie future.
C'est mieux d'être jugé pour l'autre monde. Oui, mais alors là, alors j'ai peur. Si je fais la mission trop grand, il va me tout payer de l'autre monde et Rosh Hashanah, je vais rater. Voilà. Non, en vérité, il y a un calcul contraire, mademoiselle. Il est marqué que les grandes mitzvot fabriquent des fruits. Il est marqué dans la Mishnah, on fait chaque matin, je ne sais pas si vous faites cette Mishnah. Vous connaissez cette Mishnah? Voici les mitzvot que Dieu y paye la capitale dans l'autre monde. Et les fruits dans ce monde, qui peut d'avoir, ou gmilat chassadim, vachnasat orchim, ou bikucholim, vachnasat kala, valveat amet, viyon tefila, vavat shalom benadam al chavero, benish lishtov et amotora keneget kulam. Yen Mishnah. Que voici les mitzvot, que l'homme il peut avoir le capital dans l'autre monde, et les fruits il mange dans ce monde. Qui peut d'avoir, ou gmilat chassadim, vachnasat orchim, bikucholim. Il y a beaucoup de mitzvot que le capital dans l'autre monde, mais on profite de ce monde. Alors vous pouvez faire des mitzvot très fort, et grâce à ça, vous profitez même dans ce monde.
Comme le respecter ses parents.
Quoi?
Comme respecter ses parents, parce qu'après on vit plus longtemps.
Respecter les parents, on a Olam Haba, et ça peut jaillir pour Olam Hazé aussi. Des fois, un homme, il fait une mitzvah petite. Alors, Hachem, il dit, elle est tellement petite. Si je la paye ici, il n'a rien en haut. Je laisse tout pour en haut. Elle est tellement petite, la pauvre. Si je paye ici, elle n'aura rien à l'autre monde. Au moins, je laisse ça pour l'autre monde et ici, pas. Mais s'il fait une super grande mitzvah, Hachem, il dit, je peux payer la capitale en haut, mais elle fait des fruits. Donc, il y a un calcul contraire aussi. Ça, quelle mitzvah et combien il paye dans ce monde, combien il paye dans l'autre monde? Nous ne savons pas. Personne n'a accès à ce calcul. Mais le clal, il est que plus que tu fais des mitzvot, plus ça jaillit aussi du bien dans ce monde. Mais parfois, on est tzaddik, mais Hachem, il veut quand même laisser ça pour l'autre monde et on rate sur ce monde. Mais personne n'a accès à ce calcul. D'après ça, si on dit comme le Ramban, je vais revenir sur ce que nous avons dit tout au début. Tout au début, le Rambam il a dit, on met toutes les mitzvot, toutes les averot en juge. Et si on est fautif, on meurt tout de suite. Ou une ville, elle est tout de suite détruite. Alors donc, si les villes ne sont pas détruites, donc elles ont plus de mérite, ou moitié-moitié. Oui? Mais d'après, ça c'est bien, d'après le Rambam, qu'on met toutes les mitzvot, toutes les avérot, Rosh Hashanah sur la balance. Mais d'après la Rambam, c'est qu'une sélection. Donc nous ne pouvons rien prouver. Je demandais, est-ce qu'à Wagadougou, il y a plus de mitzvot que d'avérot? D'après la Rambam, forcément oui. Parce que s'il y avait plus d'avérot, elle serait détruite. Donc si elle n'est pas détruite, donc en principe, il y a plus de mérite. Mais d'après la Rambam, on ne sait rien. Peut-être elle a plus de fautes. Simplement, Hachem n'a pas mis toutes les fautes sur la balance. Il veut peut-être payer ça dans l'autre monde. D'après Ramban, on ne peut pas déduire si une ville elle est détruite ou elle vit. Donc forcément, il y a plus de mitzvot d'Averot. Peut-être la sélection elle était faite par une partie et l'autre partie, c'est dans l'autre monde. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas savoir. Mais d'après la Ramban, en principe, la majorité des gens qui vivent, sauf il y a évidemment des exceptions. On a dit Hitler, comment Hitler il peut vivre? Comment il a pu vivre? Parce qu'il y a des exceptions. Quand on paye, Hachem, il paye tout l'autre monde dans ce monde. Il ne veut pas que Olam Haba. Donc, parce que là, il tire sur son crédit des escrouillottes pour vivre dans ce monde. Ça c'est possible. Bon, encore un petit mot sur Rosh Hashanah, si vous permettez. Vous connaissez la Akeida? Vous connaissez l'Akeda? Il est écrit dans l'Akeda, Abraham il est parti, est-ce qu'il était seul ou il était accompagné Abraham quand il est parti à l'Akeda? Avec Yitzhak, est-ce qu'il était seul ou ils étaient accompagnés? Hein? Au début ils étaient accompagnés, par combien de gens? Abraham et Yitzhak sont partis, ils étaient accompagnés par combien? Par deux. Shnei Naharav. Qui étaient les deux qui les ont accompagnés? Eliezer. Et qui était l'autre accompagnant? Quoi? Ishmael. Ishmael et Eliezer. Très bien. Est-ce que Eliezer et Ishmael, ils ont assisté à l'Akeda? Pourquoi ils n'ont pas assisté?
Parce qu'il y avait trop de...
Mais ils sont partis avec. Pourquoi ils n'ont pas assisté?
Ils ont accompagné
la mission. Hein? Ils ont accompagné la mission. Avram et Israël sont partis avec les deux jeunes avec. Et après, qu'est-ce qui est arrivé avec ces deux?
Un, il portait le bois. Il n'y avait pas un qui portait quelque chose. Il portait le bois.
Qui portait le bois? Pourquoi ils ne sont pas partis jusqu'à la Akeda? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les marque en Chumash? Vayomer Avraham El Shnei Naharav Shvu Lachem Po Imachamor Vani Vahanar Nelcha Adko Venal Shuba Alechem. Restez ici vous deux, moi les garçons, moi avec Yitzhak, nous allons continuer, on va se prosterner devant Dieu, on va revenir chez vous. Très bien. Donc Avram, au milieu de la route, a dit « Restez ici ». Pourquoi Avram leur a dit « Restez ici » Pourquoi?
À la base, il n'aura pas dit qu'il voulait tuer Yitzhak.
Hein?
Il a dit à personne qu'il voulait tuer Yitzhak.
Non, il ne leur a pas dit.
Alors,
il a dit « Je vais me prosterner devant Dieu ». Oui?
Il a dit qu'il a empêché de faire ça.
Il avait peur que les deux vont l'empêcher. Mal interprété, c'est-à-dire quoi?
Parce qu'à cette époque-là, on tuait beaucoup pour reposer sacrifice.
Alors?
Ben, il a peur qu'on croit qu'il est comme les autres, qu'il fait armer les autres. C'est possible.
Il va croire qu'Abraham, il fait avoir des arabes. Mais à quel jour il dit que je crois en Dieu?
Mais il brûle un être humain et il donne. Ça ressemble au petit brûle d'avant.
Ils ne vont pas être capables de comprendre que Dieu demanderait à ce qu'il nous sacrifie son fils. Ils vont dire, sûrement Abraham, il fait avoir des arabes, devenu fou. Pas mal, on peut interpréter comme ça. Quoi?
C'est pas Hachem qui lui a dit.
J'entends pas.
C'est pas Hachem qui lui a dit.
pas marqué dans le fromage.
Quand tu prends ton fils, c'est lui que tu aimes, c'est
lui
que...
Oui. Akadéor dit, Abraham, prends Yitzhak et tu vas le sacrifier. Oui. Après, il se fait accompagner par Dieu. Après, il dit, oh, Dieu, vous restez ici, je vais être seul avec mon fils. Hachem a dit à Abraham de dire aux gens de rester ici. Ça, c'est pas marqué en chumash. C'est marqué, Abraham leur a dit, vous restez ici. Pas marqué pourquoi. Alors, elle donne une raison. Elle donne une raison. Moi, je vais ajouter une autre raison. Imaginons-nous que les deux vont accompagner. Très bien. Alors à la fin, donc il va dire à Yitzhak, viens, je vais t'attacher les mains et les pieds. Alors il y a Ishmael et comme il s'appelle Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je vais égorger Yitzhak. Ils vont dire, vous êtes tombé sur la tête, monsieur? Alors il dit, Hachem, il m'a demandé de le faire. Alors Ishmael, il va entendre, et quoi? Hachem t'a demandé de sacrifier Yitzhak? On va dire oui. Oui. Alors, il y a ici un problème. Écoutez bien. Pourquoi Kadesh Baruch Hu, il a demandé qu'Avram y sacrifie Yitzhak? Le texte dit, « Vahi achar ha-devarim ha-eile » Ve'elokim misa et Avraham. Et après ces paroles, et Dieu il a fait un test à Avraham. Après quelles paroles? Acharei ha-devarim ha-eile. Après ces paroles. Mais de quelles paroles il s'agit? Rashi rapporte la Gemara. Il y avait une vive discussion entre Yitzhak et Ishmael. Ishmael est venu chez Yitzhak. Il a dit, tu sais frérot, moi je suis plus tzadik que toi. Yitzhak lui dit, ah bon, tu es plus tzadik que moi? Pourquoi tu es plus tzadik que moi? Elle dit, hey, à moi, on m'a fait la Brit Mila quand j'avais 13 ans. J'aurais pu dire à papa, non, je ne me laisse pas faire, et j'ai laissé faire. Mais toi, on t'a fait la Brit Mila 8 jours, tu ne pouvais pas dire ni oui ni non. Donc moi, je suis plus tzadik que toi. Allez, c'est ça qui dit, mais non, c'est moi qui est plus tzadik que toi. Il dit, ah bon, pourquoi? Parce que moi, si Dieu me demanderait que je me sacrifie entièrement, je serais d'accord. Comme ça, Yitzhak a répondu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a entendu, il s'est dit, quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Yitzhak? T'as dit que toi, tu es prêt qu'on te sacrifie entièrement? On va voir si c'est vrai. Eh bien, on va faire un test. Donc, cette histoire d'Akeda était précédée par une dispute entre Yitzhak et Ismaël. Qui est plus tzadik? Qu'est-ce qui se passe deux frères qui font un pari? Moi, je suis plus statique, toi, tu es plus statique. Ben, on va prouver. Qu'est-ce qui se passe si moi, j'ai gagné?
Ben, il voudra prouver lui aussi, après.
Quoi?
Ben, Ishmael aussi, il voudra prouver par autre chose.
Non, Ishmael ne serait pas prêt à se sacrifier, il ne va pas pouvoir. Non, le problème, il est autre. Quoi? Il va être jaloux.
Il voudra prouver qu'il est plus fort, qu'il est plus sadique.
Ah, comment tu prouves? Alors prouve-le. Hein? C'est pas ça. Le problème, il est que Yitzhak va penser dans son cœur. T'as vu Ishmael? Hein? T'as vu que je suis prêt? Hein? T'as vu? Et ça, c'est pas bon. Quand on fait une mitzvah, on ne doit pas faire la mitzvah en pensant, t'as vu que je suis plus sadique que toi? C'est pas bon de penser comme ça. Une mitzvah, il faut faire sans que quelqu'un y sera présent. C'est mieux. Parce qu'il y a une autre question. On dit qu'Avraham Avino, il était tzaddik, il a fait 10 tests. Après l'Akida, Kadesh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avino, « Ata yadati ki yare Elokim ata, velo chasarte d'mincha t'iridecha. » Maintenant, je sais que tu crains Dieu parce que tu n'as pas épargné ton fils. Mais Avraham Avinu, il était enfant, il s'est laissé jeter dans la fournaise. Vous connaissez cette histoire? Donc Hachem, il savait déjà depuis la jeunesse qu'Avraham, il est tzaddik. Pourquoi il avait besoin de le tester avec la Akeda? Pourquoi Hachem, il dit, « Atayada tekeleki, maintenant je sais que tu crains Dieu. » Mais quand il était enfant, Nimrod, il a dit, « Tu crois en Dieu? Oui. » Eh bien, il faut que tu réunisses ça, sinon je te jette dans la fournaise. Et Abraham lui dit, eh bien, je te mets dans la fournaise. Il rentre dans la fournaise. Donc, Abraham était déjà prêt à mourir pour Dieu. Pourquoi il fallait encore la Akeda? En quoi la Akeda, c'est une plus grande preuve qu'il craint Dieu que le fait qu'il se l'ait jeté dans la fournaise? Oui? Très bien, on peut dire comme vous dites. On peut dire comme vous dites, mais on peut dire encore une autre explication. L'histoire de Nimrod quand il se laissait jeter au feu, il était seul ou cette histoire était en public? Hein? Quoi? En public. Il y avait Nimrod, il y avait Terach, il y avait toute la bande là-bas. Et Nimrod, il a dit, renie ta religion. Abraham, il dit, je renie pas. Et puis tu vas dans la fournaise. C'était en public. Qu'est-ce qu'il est plus facile de faire être tzadik en public ou quand personne y regarde? Hein? En public. Quand tu es en public, vous voyez, je suis tzadik, moi. Donc ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce geste, ce n'est pas encore une preuve que tu es un top tzaddik. Peut-être tu as kiffé un peu de te faire passer comme tzaddik en public. Mais l'Akeda, qui était présent? Personne n'était présent. Il y a Hachem qui était présent. Avram, Yitzhak, Hachem, personne n'était présent. Personne n'était au courant. Avram ne savait pas que ce sera marqué après dans la Torah. C'est plus difficile d'être tzaddik. Ça, c'est ce qu'Hachem voulait tester. C'est pour ça qu'Abraham ne voulait pas qu'Eliezer et Ishmaël seront présents. Si Eliezer et Ishmaël seront présents, peut-être Yitzhak va penser, « Ah, vous avez vu comment je suis tzaddik. » Hachem ne voulait pas qu'Yitzhak pense à... Faut que personne ne sera au courant. Et ça, c'est la grande mitzvah. C'est pour ça, en vérité, ça, c'est la spécificité des Juifs. Il y avait beaucoup de fois des Juifs qui étaient massacrés et les Goïm, ils ont demandé aux Juifs, renie ta religion, sinon je te tue. Et personne n'était à côté. Il y a beaucoup, beaucoup de Juifs, personne n'était à côté. Les Juifs ont dit, non, je suis Juif. Ils disent, si tu es juif, je te tue. Et ils disent, tu fais ce que tu veux, moi je ne renie pas la religion. Mais personne n'était à côté. Ça, c'est beaucoup plus difficile que compter à des gens autour. Et ça c'est les Juifs qui sont prêts à mourir même quand dans l'anonymat, quand il n'y a pas de... quand on ne le publie pas, personne n'est au courant. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'Abraham et Yitzhak, Yitzhak, il est prêt à mourir sans que quelqu'un il est à côté. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a dit à Ismaël, restez ici. Il ne faut pas que Yitzhak, il sera fier de crâner devant Ismaël, et il ne faut pas que quelqu'un il sera au courant. Les meilleures mitzvot sont les mitzvot qu'on fait quand personne n'est à côté. Bon. Tiva Machativa Torah.